Londres, 1801. Quand John Orrinyuman vient au monde, la question ne se pose pas. Comme toutes les familles qui se respectent en Angleterre, la sienne est anglicane, membre de la religion établie, voire même de la religion d'État. Sans être d'une très grande ferveur, très pratiquante, sa famille aisée est très respectueuse en revanche de la morale, de l'ordre établi. Elle lit aussi très régulièrement la Bible dans sa version anglaise, celle réalisée sous le règne de Jacques Ier au début du XVIIe siècle. La référence est religieuse, mais c'est aussi un chef-d'œuvre de la littérature qui toucha très vite John Orrinyuman. C'est ce que nous raconte le père Case Beaumont, prêtre oratorien, président aussi de l'association française des Amis Newman.
Newman, pratiquement dès qu'il sait lire, devient un lecteur assidu de la Bible. Il en est imprégné, il a une très bonne mémoire, il en apprend des passages entiers, des livres entiers même, par cœur. Et la Bible est vraiment, depuis le début, au cœur de sa vie spirituelle.
La Bible comme point de départ, d'inspiration, jusqu'à un moment crucial. Vers 15 ans, John Orrinyuman vit un très grand bouleversement. Il fait sa première expérience personnelle avec Dieu.
Jusque-là, connaissance de la Bible, piété, oui, mais pas de grande ferveur. Et là, tout d'un coup, il vit ce qu'il appelle lui-même sa première conversion, qui prend plusieurs formes. Il y a une dimension intellectuelle, il tombe sous l'influence d'un certain nombre de personnes, des anglicanes, mais de l'anglicanisme, même à l'époque, est très, très divers. Et le courant le plus dynamique au sein de l'anglicanisme à l'époque, c'est le courant que nous appelons evangelical. Et Newman lui-même a été très, très marqué par cela dans sa jeunesse. Tous ses premiers maîtres spirituels étaient de cette tendance-là, donc de tendance un peu calviniste, ultra-protestante, si vous voulez. Il y a donc cette dimension-là, mais il y a surtout une sorte d'expérience spirituelle fondamentale, une rencontre avec Dieu en lui, au plus profond de sa conscience de soi, sa conscience auto-réflexive.
Enfant brillant, étudiant précoce, John Orrinyuman entre en 1817 à l'université d'Oxford. Là commencent des études acharnées, de droit notamment. Son père, ruiné, rêve de le voir devenir avocat. Lui choisit le célibat et l'église, sans renoncer à ses études, même à son titre de fellow d'Oxford, c'est-à-dire de membre du corps professoral. Le jeune homme est ordonné prêtre anglican en 1825 et sa notoriété va croissante, surtout après son arrivée à la paroisse Sainte-Marie. Pendant 8 ans, ses sermons du samedi après-midi dans l'église de l'université d'Oxford, la plus connue d'Angleterre, font de lui une référence. Et c'est doté de cette responsabilité qu'il tente d'assurer une base doctrinale et disciplinaire solide à l'église d'Angleterre. Pétri par l'étude des pères de l'église, il prône un retour à la foi des origines.
Ça se fait progressivement. Tout d'abord, cette influence très protestante qui le marque beaucoup au début. Il s'en détache au niveau doctrinal. Par exemple, l'importance accordée à l'affectivité. Il découvre aussi d'autres dimensions. Il découvre, par exemple, l'Église comme réalité sacramentelle, comme corps ayant une autonomie par rapport à l'État. Elle a une autonomie, elle doit retrouver cette autonomie, sa mission divine, qui est d'annoncer Dieu aux hommes, mais aussi redevenir un véhicule de la grâce. Et petit à petit, Newman milite au sein du mouvement d'Oxford. Pour essayer de donner une clé de lecture de ce mouvement d'Oxford, Newman prend la formule du symbole de Nicée-Constantinople, je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Il s'interroge sur le sens de ces quatre mots. L'Église, une, ça oblige à réfléchir au rapport entre l'anglicanisme, le catholicisme, comment cette unité s'est-elle brisée, sur quoi la rupture est-elle fondée, est-elle nécessaire, comment refaire l'unité de l'Église. L'Église catholique, ça veut dire universelle. Il est clair que l'Église anglicane se pense comme une Église nationale. Alors comment retrouver ce sens d'universel ? Apostolique, il comprend le mot au sens où il est utilisé dans le credo, c'est-à-dire qui remonte à l'époque des apôtres et qui est dans une continuité parfaite avec l'époque des apôtres. L'Église anglicane, est-ce qu'elle se conçoit comme une Église qui perpétue les traditions de l'Église des premiers siècles ? Et puis surtout, surtout, une Église sainte. C'est la recherche de la sainteté qui est vraiment le mobile premier du mouvement d'Oxford. La recherche de la sainteté, non pas dans une perspective purement morale, purement volontariste, mais une sainteté reçu de Dieu par l'Esprit Saint, par le moyen de la vie sacramentelle. Donc il va se battre pour restaurer toute une liturgie sacramentelle qui existe sur le papier, mais se trouve plus ou moins négligée. À l'époque de Newman, l'Eucharistie est célébrée en moyenne 4 fois par an. Newman veut restaurer la célébration quotidienne, dominicale. Il a du mal parce que tout cela est perçu comme étant un retour au catholicisme. Et en raison des conflits sanglants qui remontent au XVIe siècle, le catholicisme est un objet d'opprobre, d'horreur pour la plupart des anglicans et des protestants. Donc il marche sur des œufs, il est obligé d'y aller très très doucement. Et puis petit à petit, à la recherche de cette sainteté, il en vient à se persuader que ça n'existe pas, ou que très imparfaitement, au sein de l'Église anglicane, et que ça existe réellement au sein de l'Église catholique.
Newman et ses proches du mouvement d'Oxford tentent, dans une série de tracts, de développer une conception de l'anglicanisme à mi-chemin entre le catholicisme et le protestantisme populaire à travers ce qu'il appelle la Via Media, jusqu'à la publication d'un dernier tract qui, cette fois, le met au banc. Dans ce document, Newman démontre que le socle de la doctrine anglicane, les 39 articles, ne sont pas en contradiction avec le Concile de Trente, provoquant une levée de boucliers. Incompris, il se retire avec quelques disciples à Littlemore, ne supportant plus l'appartenance à une église schismatique. Newman démissionne de ses fonctions. C'est là qu'il se rapproche de l'Église catholique, mouvement naturel. Il est le fruit d'un examen de conscience, mais loin pour autant d'être évident, le père Case Beaumont.
Pendant très très longtemps, il est très hostile au catholicisme, persuadé même que le pape est l'antichrist. Et cette hostilité a été renforcée par les lectures qu'il a faites dans les années qui ont suivi cette première conversion de 1816. Donc, il y a cette aversion à surmonter, mais ça, il le fait parce qu'il se rend compte que c'est une réaction affective. Mais le grand obstacle pour lui, dans l'Église catholique, c'est l'idée commune à tous les anglicans, tous les protestants, que l'Église catholique romaine a ajouté au dépôt de la foi primitive des corruptions, des pratiques, des doctrines. Et Newman se pose la question, mais qu'en est-il vraiment de ces changements? Il reconnaît parfaitement que l'Église catholique au XIXe siècle n'est pas du tout identique à l'Église des premiers siècles. Mais est-ce qu'elle a changé la foi? Et il en vient de se persuader que ces changements sont non pas des innovations, mais d'authentiques développements de quelque chose qui existait au départ. Pour mettre à l'épreuve cette hypothèse, il entreprend cette énorme campagne de recherche qui donne naissance à son dernier livre anglican qui est l'essai sur le développement de la doctrine chrétienne. Et c'est le point tournant. Avant même qu'il ait fini d'écrire le livre, il se laisse convaincre par l'hypothèse qu'il examine. Il a décidé de franchir le Rubicon, de devenir catholique avant même d'avoir fini le livre.
Deux années passent avant que John Henry Newman ne soit officiellement reçu par le père Dominique Barbieri au sein de l'Église catholique. Il est baptisé le 9 octobre 1945, une conversion dont il dira plus tard qu'elle n'était pas négative, mais positive. On ne rejette pas, on complète, on bâtit sûr.
La pensée de Newman est très claire, mais elle est très complexe. Elle est surtout très très nuancée. C'est un homme qui ne se contente pas de voir les choses en noir et blanc. D'ailleurs, c'est par là, je crois qu'il peut nous aider, nous Français. Nous avons trop tendance à voir les choses en termes d'opposition. De gauche, de droite, tradis, progressiste, etc. etc. Newman est un homme qui, d'abord, il est marqué par une toute autre tradition philosophique, la tradition de l'empirisme anglais. Et au lieu de voir les choses en termes d'opposition, de noir et blanc, il fait le tour d'une question. Il essaie de voir tous les aspects divers, multiples, et ainsi de suite.
Évidemment, cette manière de penser lui valut les soupçons et pendant des années des catholiques britanniques. Elle ne facilite pas l'arrivée de John Henry Newman au sein de l'Église catholique. Nous y revenons dans notre prochain magazine.